Allez-y.
Non, une seconde. Alors, 3, 4.
Non si parla con la bocca piena.
On ne parle pas la bouche pleine.
Une émission d'Alain Kruger.
Sortez.
C'est très gentil de venir nous voir, Michele Farnesi.
Merci à vous pour m'accueillir.
Alors, vous entendez le rossignol toscan?
Ouais.
C'est un rossignol toscan. Alors, je ne sais pas s'il vient de Lucca, comme vous, de Luc, mais lui aussi, il a beaucoup voyagé. Il a fait comme le rat de Ratatouille. Il est venu vers la plus belle ville du monde.
Ouais.
C'est ce que dit le film, hein, c'est pas ce que je dis.
Inspiré par le film aussi.
C'est ça. Vous avez été inspiré par le film Ratatouille pour venir à Paris.
Ouais, c'est ça. Il m'a fait découvrir en moi les charmes de la ville pour les cuisiniers. En plus, c'est la ville top au monde, je pense.
J'ai le droit de dire que vous avez 27 ans.
Absolument.
Hein, que vous avez un restaurant à Paris qui s'appelle Dilia,
ouais.
Qui est à Ménilmontant, juste devant la place Maurice Chevalier.
Ouais.
Et alors, vous avez commencé chez Massimo Bottura.
J'ai commencé encore avant, j'étais un gamin, à Alba, chez un monsieur qui s'appelle Fulvio Sicardi. Après, j'ai déménagé en Suède, chez un autre monsieur d'origine italienne qui s'appelle Stefano Catenacci, un grand chef aussi. Après, je suis entré en Italie chez Massimo Bottura. Après cette expérience quand même assez costaud, j'ai déménagé à Paris. Et là, j'ai commencé chez Saturne. Après, j'ai rencontré Giovanni Passerini. Et voilà, c'est né l'amour.
Alors, Giovanni Passerini, vous l'avez connu chez Rino,
ouais.
Qui est un restaurant qui n'existe plus. Maintenant, il a créé son propre,
ouais, restaurant,
son
Passerini.
Propre restaurant. Et alors, Giovanni Passerini, il dit que vous êtes le maître des pâtes. Ce que j'aimerais, c'est que vous nous disiez comment on fait les pâtes comme personne. Parce que les chefs ont toujours un peu ils ont un geste qu'ils sont les seuls à faire. Alors, Giovanni Passerini, le geste qu'il faisait, c'était ses raviolis.
Ouais, il adorait faire ses raviolis, ses tortellini, ses pâtes fraîches. Lui, il adorait faire ça. Il ne faisait pas toucher à personne d'autre. Juste lui, il les touchait parce que c'était son geste préféré de la journée. C'était les 12 heures de tranquillité zen avant les services. Et voilà, moi je suis un peu plus dynamique, donc j'aime, comme on dit en Italie, mantecare les pâtes pendant les services, quand ça arrive les commandes partout, et voilà.
Mais les pâtes, il n'y a que vous qui y touchez.
Ouais.
Vous qui mettez la main à la pâte.
Ouais, non, au restaurant, qu'il touche la casserole des pâtes, c'est que moi, voilà. Mais pas parce que les autres ne sont pas capables, c'est juste parce que j'adore ces gestes, j'adore... l'assaisonner, les goûter, les sauter dans la poêle, je le trouve très beau. Voilà.
Mantecare la pasta, qu'est-ce que ça veut dire?
Mantecare, c'est un terme italien qu'on utilise pour en fait tous les féculents. Donc tu peux l'utiliser aussi pour les risottos. Et c'est un verbe que ça veut dire en fait faire crémeuse la sauce que ça va lier avec la pâte. C'est une émulsion entre les liquides. Qu'il y a les jus que ça va lier avec les féculents de la pâte et les gras que tu vas rajouter pendant la mantecatura. Donc, ces trois éléments, en fait, ça fait un crème que c'est bien fait, ça reste crémeuse autour de la pâte pendant que tu la manges. Ça ne doit pas être trop sec, ça ne doit être pas trop liquide, ça doit juste rester autour de la pâte. Si ça en reste un tout petit peu sur le fond de l'assiette pour saucer avec les pains, c'est même mieux. Mais un tout petit peu, pas trop.
Si on remonte dans le temps, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de la pâte?
Ouais, c'est assez marrant en fait. Quand je l'ai découvert, j'étais contente aussi. Parce qu'en fait, le terme de maccheroni, ça vient d'un terme étrusque, et c'est macari, qui en fait, c'était le terme pour appeler la pâte à l'époque étrusque. Bon, les Étrusques, c'était une population qui a beaucoup déménagé partout l'Italie, c'est arrivé jusqu'en Sicile, où ça se gardait en fait jusqu'à l'âge moyen, ce terme, pour appeler...
Moyen-âge, oui.
À le Moyen-âge, pardon. Pour appeler la pâte fraîche.
Donc le macaroni, c'est pas une invention napolitaine.
Je pense que la forme, oui. Mais les mots, la racine du mot, en fait, ça vient des Étrusques. Que c'est ma... mes origines, donc ça, ça me fait marrer. Et voilà, après on arrive en fait à l'âge moyen, que c'est la pâte sec, avec la colonisation, de la Sicile par les Saracens. Ils avaient le besoin en fait d'exporter la pâte dans les marchés arabes, dans tous les nord d'Afrique, Turquie, méchant. Donc ils ont bien compris que c'est le changer un tout petit peu la façon de la faire, avec de la semoule de blé dur. Elle la faisait sécher au soleil, c'était immortel, quoi.
Alors, la légende qui veut que les pâtes viennent de Chine...
Non, ça, c'est pas vrai. C'est vrai que c'était développé en Chine aussi, mais c'est un développement complètement...
Parallèle.
Parallèle, ouais. Nous, on utilise les blés durs. Eux, ils utilisent surtout des céréales et du riz. Donc, ils utilisent surtout les féculents, en fait, de cette matière. Nous, on utilise vraiment la farine. Donc, il n'y a rien à voir notre pâte avec la pâte chinoise. Et voilà, aussi, l'unique chose peut-être que ça peut rassembler un peu, c'est dans la forme. Juste deux formes, les spaghettis, en fait, et les raviolis. Mais bon.
Il y a un chanteur italien qui s'appelle Rino Gaetano.
Ouais, Rino Gaetano, c'est juste le plus grand rockstar de l'histoire de la musique italienne.
Ah c'est oui, tout. C'est mieux, vous trouvez, qu'Adriano Celentano?
Moi, je trouve que c'était un chanteur assez politique. Donc, à cette époque-là qu'il a vécu, c'était assez... Il était assez courageux, voilà.
Et est-ce que vous pouvez lancer la chanson, alors?
Absolument. C'est de Rino Gaetano, Ma il cielo è sempre più blu.
Qui nous dit Rino Gaetano?
Mais ça, c'est une chanson, comme je le disais, c'est assez politique. Elle parle en fait de plusieurs problèmes et en fait, elle fait comme une liste des problèmes de l'Italie de l'année 70. Et enfin, elle dit: mais bon, enfin, le ciel, c'est toujours bleu. Donc. Et en fait, c'est assez marrant cette chanson parce que tous les problèmes qu'elle fait la liste. En fait, ils sont toujours assez actuels. Donc, moi, je trouve un génie, les mecs.
Et le ciel est toujours bleu.
Oui, l'échelle est toujours bleue en Italie. Donc, ça va aller, je pense.
Michele Farnesi, vous êtes, je peux le dire, un très, très bon cuisinier. Le mot cuisinier est un mot plus fort que le mot chef pour moi.
Merci.
J'aimerais que vous nous fassiez des pâtes. Alors, peut-être d'abord des pâtes fraîches, puis vous nous direz pourquoi aussi vous utilisez des pâtes sèches.
Alors déjà, il faut expliquer la différence. Suivant en France, c'est pas évident. Suivant la pâte fraîche, ça veut dire qualité. Ou pâte sec par qualité. Mais c'est pas comme ça. Il y a de la très bonne qualité dans les deux, comme il y a pas de la qualité dans les deux. En deuxième, il faut dire que la pâte fraîche, ça va avec certaines choses. Et
donnez-nous d'autres. Des exemples, hein. Aidez-nous.
Ouais. La pâte fraîche, par exemple, c'est obligatoire pour faire des raviolis, par exemple. Donc, à farcir. Ou c'est bien pour les tagliatelle, pour faire avec un ragoût. Ça peut aller aussi en façon tagliolini avec certains poissons. Mais chaque pâte, en fait, il y a sa garniture, on dirait. Les pâtes secs, c'est plutôt en fait des pâtes qu'on cuisine à la maison tous les jours, voilà, qu'on mange comme un repas standard et qu'il y a de mauvaise qualité, de très mauvaise qualité, même en Italie. Et après, il y a de la super qualité. La différence entre les deux pâtes, c'est que la pâte fraîche, c'est fait avec un tout petit peu de semoule, mais surtout de la farine 00 et des œufs. Un tout petit peu d'eau, ça dépend de la personne qui l'a fait. Les pâtes secs, c'est toujours, toujours semoule de blé dur et pâte. C'est une pâte complètement différente par rapport à la pâte fraîche. C'est une pâte très, très dure, qui en fait, elle prend la forme qu'on voit au supermarché ou en boutique, parce qu'elle est passée dans un trafil en bronze, et c'est pressé dans cette petite trou, et après coupé, et mis à sécher. Ça dépend après dans les producteurs, qu'il fait de la qualité, et le fait sécher à basse température pendant 2 jours. Sinon, il y a aussi les trucs industriels qui la sèchent dans 2 heures à haute température. Voilà.
Les bonnes qualités, on peut citer des noms de...
Moi, qu'est-ce que j'ai, que la, pour moi, la meilleure qualité, c'est ce que j'utilise au restaurant, c'est pour ça que je l'ai choisi, c'est la rusticella d'Abruzzo. Mais c'est un, quand même, c'est un pâte pour restaurateur, ça veut dire que c'est un tout petit peu cher. Pour la maison, moi je conseillerais la Dececco. C'est un rapport qualité-prix, c'est la meilleure, et c'est la, il tient très bien la cuisson. Il a assez de feu coulant, donc quand tu vas faire la mantecatura, c'est émoussionne assez simplement. Et voilà.
Quand vous faites vos pâtes fraîches, qu'est-ce que vous faites?
Alors moi, les pâtes fraîches, souvent je les fais juste pour les ragoûts de chasse surtout. J'adore ça, parce que quand même il a un goût assez, il a un goût assez fort, assez puissant. Donc il tient bien le goût de la pâte fraîche. Ça veut dire un goût un peu des œufs, des farines, et voilà. En plus, ça se lit bien, parce que la pâte fraîche, c'est jamais très al dente comme la pâte sec. Donc en fait, ça se lit très bien avec la sauce ragoût, voilà. Par rapport, par exemple, pour moi, pour la pâte sec, c'est magnifique tout. Qu'est-ce que c'est, fruits de mer, par exemple. La pâte sec, j'adore, par exemple, les spaghettis à les vongoles. C'est magnifique. J'adore les spaghettis avec les oursins ou les linguines avec les huîtres, que j'ai à la carte maintenant au restaurant. C'est très bien, voilà, avec tous les fruits de mer, surtout les pâtes longues comme ça. Après, il y a aussi des très bons formats comme les paccheri ou les rigatoni pour des sauces avec des gros morceaux dedans. C'est comme une grosse alliance. Et la pâte, c'est très épais. Donc, c'est une pâte que ça prend à peu près suivant 18-20 minutes de cuisson. Et donc, il y a un gros trou au milieu. Et dans un ragoût de poulpe, par exemple, que c'est une sauce... fait avec du poulpe cuit avec des tomates et de l'ail, et après coupé en gros morceaux. Les gros morceaux de poulpe, ça rentre dans les paccheri, et quand tu prends un paccheri, tu le manges entier, sans les couper à couteau, s'il vous plaît. Tu mets dans la bouche les paccheri entiers, et ça explose la sauce et tout, et c'est al dente, c'est très bon. Voilà, c'est les Méditerranées dans ta bouche.
Alors, moi j'aimerais pouvoir dire aux auditeurs de France Culture que Michele Farnesi a une expression qui se modifie totalement au moment où il parle de ses sauces et de ses pâtes. Il y a une illumination particulière. Alors pourquoi cette illumination?
Mais je trouve que c'est beau, c'est un bel geste. Et en plus, ça me donne faim, ça me donne envie, tout simplement. En France, c'est ça, la cuisine italienne, c'est ça. Ça doit être un vide. C'est très beau, c'est un bel geste. C'est bien, la pâte, j'adore. J'adore la faire. Voilà. Sur France Culture, non si parla alla bocca piena, avec Alain Kruger. Là, je voulais expliquer à peu près la façon de faire l'émulsion, les gestes de la mantecatura.
Alors, allons-y.
Parce que il faut comprendre que chaque produit il réagit en façon différente. Donc, par exemple, il y a la sauce que je pense tout le monde connaît en France et il adore aussi, la cacio e pepe, par exemple. C'est un des pâtes plus simples et plus compliquées en même temps. Parce qu'il y a deux ou trois choses que c'est compliqué à gérer pendant la mantecatura. Déjà, c'est fait avec du pecorino et du poivre. Basta. Donc, vous comprenez bien que faire un crème de pecorino et poivre, ce n'est pas aussi simple que faire avec du ragoût, par exemple. Que c'est déjà une espèce d'émulsion tout seul.
C'est du pecorino sarde ?
C'est du pecorino romain.
Romain.
Ouais, après, moi, je rajoute un tout petit peu de parmesan, parce que c'est le parmesan, c'est l'élément en Italie avec plus d'umami présente dans notre culture gastronomique. L'umami, c'est le cinquième goût. C'est l'amertume, les sucrés, l'acidité.
Ce que j'aimerais que vous nous disiez, c'est quand vous assemblez votre émulsion, comment vous gérez l'émulsion par rapport à la cuisson de la pâte ?
Alors déjà, il faut choisir... Moi, je dis tout le temps que la pâte, c'est bon quand il y a déjà une bonne qualité de pâte. Donc la bonne qualité de pâte, c'est déjà par rapport au goût qu'elle a et par rapport à comment elle tient la cuisson. Donc, quand tu sors l'eau de la pâte de l'eau, ça doit, pour la cache de pépé, ça doit être un geste très vite, après l'émulsion. Donc la pâte, ça doit être cuite, parce que tu ne peux pas l'émulsionner dans la casserole, parce que si c'est trop chaud, ça fait les fils. Dans la casserole pour l'émulsion, quand je lance mes pâtes dans l'eau pour la cuisson, moi je fais une espèce de bouillon de poivre. Donc quand je lance la pâte dans l'eau pour cuire, je mets dans la casserole à côté un tout petit peu d'eau avec des poivres. Moi j'utilise un mélange de poivre africaine, indienne, méchant. Donc je le fais bouillir doucement pendant le temps de la cuisson. Donc l'eau ça prend déjà un goût de poivre, très aromatisé, très épicé. Quand la pâte s'est cuite, je la sors dans l'eau de cuisson et je la mets dans l'autre casserole avec cette espèce de bouillon de poivre. Que ça doit être déjà dans la bonne quantité pour aller à faire l'émulsion. Parce qu'après, tu ne peux pas rajouter de l'eau bouillon ni de l'eau froide. Parce que sinon, le fromage, ça ne va pas fondre. Donc, je le mets dans la casserole. L'eau, ça doit être parfaitement entre 85 et 75 degrés. Et je commence à émulsionner avec le parmesan et le pecorino. Jusqu'à un moment que tu es contente du goût et de la crémosité de la sauce. Moi, je conseille toujours de se garder un tout petit peu d'eau, pas bouillante, mais vers 80 degrés. Pas l'eau de cuisson, parce que l'eau de la cuisson, c'est salé. Donc, juste de l'eau chaude, pour si vous avez besoin de rajouter un tout petit goutte d'eau, parce que peut-être il n'a pas assez goût de fromage, ou parce que peut-être c'est un peu trop dur l'émulsion. Alors, vous pouvez toujours ajouter un tout petit peu d'eau chaude.
D'accord, on salive. Alors, qu'est-ce que vous avez mis comme pâte, là, en l'occurrence?
Moi, j'aime bien, dans la cache pépé, j'aime bien les rigatoni. C'est la pâte classique pour les faire. Et c'est un peu plus compliqué à la faire avec les rigatoni qu'avec les spaghetti.
Mais pourquoi?
Parce que les rigatoni, même dans la casserole, c'est plus large. Ça reste plus large, c'est moins compacté. Les spaghettis, ça fait comme des nœuds entre eux. Donc, c'est un tout petit peu plus simple à les émulsionner. Les rigatoni, ça reste tous larges dans la casserole parce qu'ils sont des grosses pâtes. Donc, voilà, c'est un tout petit peu plus difficile. Mais il faut faire d'expérience. Un exemple aussi, c'était par exemple les pâtes aux huîtres. Que c'est exactement à l'inverse. Parce que si vous mettez trop d'eau, après, ça devient trop liquide, la sauce. Donc, les rigatoni, il faut mettre un peu plus d'eau, parce qu'après, le fromage fondu, c'est comme s'il va sucer l'eau pour s'effondrer. En fait, ça va émulsionner. Donc, il a besoin de beaucoup d'eau. La pâte aux huîtres, à l'inverse, moi, je mixe les huîtres avec l'eau que ça sort en ouverture.
Et l'eau de l'huître.
Donc. L'eau de l'huître. Je les rajoute à la pâte, et après, je vais émulsionner ça avec un petit noix de beurre. Donc, en fait, l'huître, qu'est-ce que ça fait? Au début, ça rassemble très liquide, mais après 30 secondes, quand l'huître est cuit, en fait, ça coagule. Donc, ça devient plus ferme, la sauce. Voilà, donc la différence entre les deux, c'est le départ de quand tu vas mettre les produits dans la casserole. La cache de pépé, il faut avoir beaucoup d'eau, parce que le fromage, ça va fondre, donc l'eau, ça va sortir. L'huître, ça doit être un peu plus sèche, parce que quand tu vas rajouter l'huître mixée, ça va rassembler liquide, et après ça va coaguler. Donc c'est ça la différence. Il faut comprendre les produits, et chaque produit, c'est différent. C'est jamais la même chose. Il faut faire d'expérience, essayer. Une fois, ça tout te trompe. La deuxième, tout te trompe. La troisième, tu as compris. Et voilà.
Michele Farnese, quand vous ouvrez l'huître, est-ce qu'elle pousse un cri particulier?
And time went back and forth and sideways. I'm putting out fires all over the place. I guess it knocked me sideways. Oh, she made me go.
On est bien d'accord qu'on ne met jamais d'huile dans l'eau.
Non, ça c'est un mythe.
Ça c'est un mythe français.
Ouais.
Ça, c'est, hein.
Ouais. Non, la cuisson, voilà, la cuisson de la pâte. En fait, mettre de l'huile dans l'eau de cuisson, c'est juste jeter d'argent. Il faut juste faire gaffe à mélanger la pâte quand vous la mettez à cuire. Si vous mettez la pâte à cuire et vous la mélangez pas, même avec 2 litres d'huile dans la casserole de cuisson, ça tâche quand même.
Quand vous arrêtez les pâtes.
Ouais.
La cuisson dans l'eau des pâtes,
ouais.
Vous l'arrêtez au bout de combien de temps? Parce qu'elle va, comme elle va un peu recuire au moment de l'émulsion. Ouais.
Moi, ça aussi, ça dépend de la sauce. Comme je vous ai dit en avance, la cachet pépé, je la sors à un moment de cuisson. Parce qu'après, les gestes de l'émulsion, ça doit être vraiment vite. Des pâtes, comme par exemple la pâte aux huîtres, vu que là, quand je vais la mettre dans la poêle, ça va être légèrement liquide. Et après, ça va coaguler. Je la sors une minute avant. Après, les temps de cuisson, ça dépend toujours dans les pâtes, dans la qualité, dans les formats, dans beaucoup de choses. Donc ça, je ne peux pas vous dire...
Donc vous goûtez.
Exactement. Quand vous pensez que c'est un tout petit peu dur, c'est le moment de l'en sortir. Pour les pâtes aux huîtres. Ou les pâtes aux fruits de mer, toute cette typologie de pâtes, c'est toujours meilleur de sortir une minute avant.
Et vous avez une émulsion que vous préférez entre toutes?
Mais non, ça dépend.
Celle de l'enfance, celle qui vous...
Mais honnêtement, chez moi, c'était, on ne mange pas beaucoup de pâtes, en fait. Je pense que c'est ça, pour ça qu'après, je l'ai commencé à beaucoup aimer. Je me les faisais tout seul. Ma mère, c'était complètement nulle à cuisiner. Et ma grand-mère, en fait, c'était plus des grandes soupes. En Toscane, on mange beaucoup de soupes. Et les abats, on mangeait beaucoup d'abats dans les repas des familles, on mangeait de la pâte fraîche, comme les tortellini, fait maison, évidemment. Et surtout, voilà, les abats, les pièces d'agneau, des bœufs, les poulets de ma grand-mère, les pigeons, les lapins, la polenta, surtout en Toscane aussi. On ne mange pas beaucoup de pâtes dans les repas des familles. Donc, je n'ai pas beaucoup de souvenirs d'enfance sur les pâtes.
Et la première pâte que vous ayez cuisinée, qu'est-ce que
c'était ? L'arrabbiata.
L'arrabbiata ?
Ouais, moi, j'avais 8 ans.
Et comment vous la faisiez ?
Mais l'arrabbiata, c'est très simple. C'était d'ail, l'huile, le piment et les tomates de ma grand-mère volées parce qu'elle voyait que, que je les freinais. Elle me frappait grave.
Et ça, c'était à Lucca, ça ?
Ouais. Ouais, à Guamo, c'était le village. J'habitais avec ma grand-mère à l'époque.
Si quelqu'un vous dit qu'il est allergique au gluten, qu'est-ce que vous conseillez comme pâte?
Les risottes, pas des pâtes. Mais c'est la vérité. C'est, peut-être que je suis un peu méchante, mais si vous êtes allergique aux pâtes, c'est mieux de ne pas manger parce que les pâtes sans gluten sont toujours nulles. Donc, si vous voulez faire vos plaisirs au restaurant, manger un risotto, c'est toujours beaucoup plus bon qu'un pâte sans gluten.
Mais quelle Farnese ont... En ce moment, qu'est-ce que vous feriez comme risotto?
Je pense que je pourrais faire un risotto avec de la sèche, de la bourrache, l'herbe. C'est une herbe sauvage, ça n'existe pas que les fleurs. C'est très très bon, c'est assez iodé. Et des cédrats, avec l'encre de sèche dessus, c'est vraiment très bon. Ça.
Comment vous le faites? Parce que je ne vois pas en train de cuisiner, alors que les pâtes, vous les avez cuisinées.
Les risottos, c'est même plus simple que les pâtes. Honnêtement, vraiment, c'est très, très simple. Aussi, les risottos, c'est important, la cuisson. Donc, ça doit être toujours al dente, aussi. Mais après, les procédures, c'est très simple. C'est comme faire un espèce de pot-à-feu, enfin. Tu commences avec faire revenir de l'échalote ou de les oignons dans la casserole. Tu mets les riz, tu le fais un peu, ça sonne un tout petit peu, ça fait... Et là, tu vas déglacer avec du vin blanc, Après, tu vas rajouter un bouillon de poisson jusqu'à la cuisson, al dente. Tu sors du four, tu fais reposer 30 secondes, parce que quand tu vas rajouter ou l'huile ou le beurre, ça va être trop chaud, donc ça va rassembler trop liquide. Mais après, quand ça va refroidir, ça va être trop épais. Donc tu fais attendre 30 secondes, 1 minute. Là, c'est le bon moment pour faire la mantecatura. Tu rajoutes ton gras à ton goût, que ce soit de beurre, soit de l'huile d'olive, ça dépend du risotto. Et moi, je rajoute toujours à la fin, par exemple, cette fois-là, la sèche taillée en brunoise. Je la rajoute à la fin en exprès pour que ça cuit à 60-65 degrés. Donc, ça se cuit dans le risotto et il laisse ses jus dans le risotto et c'est absolument pas trop cuit. C'est juste très tendre et très goûteux. Tu rajoutes les herbes dans cette occasion-là, la bourrache. Et tu mixes, tu mixes, et ça doit être à l'onda, ça veut dire que ça doit être la bonne
encore
texture.
Liquide, encore un tout petit peu liquide.
Ouais, ça doit être la bonne texture entre le liquide et le trop dur. Ça, c'est compliqué à l'expliquer, ça, c'est vraiment de l'expérience. Quand tu fais les risottos, tu sais que ça, c'est à l'onda, quoi. Mm-hmm. Et dans le cas du restaurant, ça doit être un tout petit peu plus liquide de l'onda, parce qu'après, entre le temps de les dresser, les servir, si arrivé à la table et manger, le risotto, ça continue à prendre de l'eau. Donc, c'est possible que ça te va ruiner l'émotion. Donc, quand on les fait au restaurant, on les fait toujours un tout petit peu plus liquide, parce que comme ça, quand on arrive au client, c'est nickel.
Et pour les pâtes?
C'est exactement la même chose. C'est toujours légèrement différent par rapport à la faire à la maison et la faire au restaurant. Moi, chez moi, c'est un restaurant très petit, donc je la fais parfait et ça arrive tout de suite à la table. Après, je m'énerve un peu quand je vois les clients qui traînent avec la pâte pour 45 minutes là sur la fourchette. Franchement, ça m'énerve un peu parce que, comme je répète toujours, la pâte, il faut la faire et manger vite parce que sinon, après, il n'y a pas d'intérêt. Cette fois, c'est.
Et ne pas parler la bouche pleine.
Surtout.
Michele Farnese, je voulais vous remercier d'être venu vous exprimer en français. Parce que quand vous êtes arrivé à Paris, vous ne parliez pas un mot de français.
Zéro. J'ai appris qu'est-ce que ça veut dire « ça va » à Paris. Le troisième jour que j'étais là. Je pensais que c'était espagnol, moi.
Attention, hein. 3, 4. Plier tendu la jambe et hop.
C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Alain Kruger avec la collaboration de Dominique Compétissa, la prise de son et de jeu en Richard Dufour et la mise en onde d'Anne Pérez. Vous pouvez réécouter cette émission pendant 1000 ans, vous pouvez aussi la télécharger et dans quelques instants, le journal. Hey, 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 hey.